Quels sont les conseils à suivre et les écueils à éviter pour les entrepreneurs qui ne veulent pas finir en burn-out? Les entrepreneurs sont des gens bizarres, je le sais car j'en suis un aussi. Il y a quelques années, alors que je travaillais avec un ami start-upper, je lui demandais combien il gagnait. Il me répondit: rien, je ne me suis pas payé pendant 3 ans. J'ai pensé qu'il était fou. Puis, des années plus tard, j'ai aussi entrepris et j'ai fait comme lui car il faut savoir faire des efforts pour amorcer la pompe. Toutefois, faire des efforts, c'est bien, mais en faire trop mène à des excès et finit par vous rendre malade. C'est ce qu'a vécu Ludovic Salen, qui vient de sortir un livre au titre déroutant, La route du bonheur semblant. Ludovic, lors de cette interview, m'a livré 3 conseils à suivre et 3 erreurs à ne pas commettre à l'attention de ceux qui veulent se lancer et survivre dans la jungle de l'entrepreneuriat.
Des interviews, des chiffres, des faits. Des études, pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion.
Aujourd'hui, dans les podcasts de Visionary Marketing, Ludovic Salen nous livre ses 3 conseils à suivre et 3 écueils à éviter pour que les entrepreneurs ne partent pas en burn-out. Si les journaux sont pleins de ces images d'épinal de businessmen à succès qui gagnent de l'argent, qui semble tomber du ciel sans toujours donner l'impression de travailler, la réalité est tout autre. Souvent, ils travaillent des années sans gagner d'argent, donnent tout à leur passion, sans compter, prennent des risques, réussissent parfois, et souvent se cassent le nez. Parfois, ils rencontrent des difficultés financières, personnelles et familiales. Et parfois aussi, ils font un burn-out. À force de se mettre des objectifs toujours plus importants, car ils sont piégés par leurs repères socioculturels. Ludovic retrace dans ce livre son propre parcours. Il a longtemps pensé être sur la route du bonheur, celle dictée, comme pour beaucoup d'entre nous, par nos différents repères de société, religieux, économique, etc. Mais il s'est rendu compte finalement faire un peu semblant. Ce sous-titre est un clin d'œil à sa fille qui, quand elle avait 2 ans, avait l'habitude, à chaque fois qu'elle faisait une bêtise, de dire qu'elle faisait quelque chose semblant. Si elle jouait au ballon dans la cuisine, par exemple, elle jouait au ballon semblant. Je vous laisse en compagnie de Ludovic, apprenti entrepreneur. Écoutez bien ce qui va suivre. Je suis avec Ludovic Salen en direct du Havre. Bonjour Ludovic.
Salut Yann.
C'est à moi de te rendre l'appareil puisqu'on a fait un podcast avec toi l'année dernière sur ton site. Et aujourd'hui, on va parler de ton nouveau bouquin, La route du bonheur. Alors, il est déroutant ce titre, parce que c'est marqué « La route du bonheur » et en dessous, c'est marqué, entre parenthèses, « semblant », point d'exclamation. Alors, j'ai lu un petit peu le bouquin, donc je sais pourquoi, mais vas-y, explique-nous pourquoi ça s'appelle comme ça.
Bah, très honnêtement, le titre, je l'ai trouvé quand je faisais mon jogging un peu hebdo, et je luttais pour avoir un titre. Au départ, ça devait pas être celui-là, et puis un jour, en courant sous la pluie normande, j'ai eu l'illumination en me disant « c'est la route du bonheur » avec « semblant » entre parenthèses. Pourquoi ce titre? Alors, pour 2 raisons. La première raison, c'est forcément un petit clin d'œil à ma fille qui a aujourd'hui 4 ans, 4 ans et demi. Mais quand elle en avait 2, donc la moitié de sa vie finalement, elle avait l'habitude à chaque fois qu'elle faisait une bêtise de dire qu'elle faisait quelque chose semblant. Donc par exemple, si elle joue au ballon dans la cuisine, elle allait dire bah, « joue au ballon semblant » ou « je saute sur mon lit semblant » ou « je fais ça semblant ». Et ça m'a toujours fait rigoler et du coup, je me suis dit « mais en fait, on est assez nombreux, je pense, à être sur une route » qu'on pense être la route du bonheur parce que c'est la route qu'on nous dicte un peu via différents repères qu'on peut avoir, que ce soit des repères de société, des repères religieux, des repères économiques, etc. Mais en fait, on fait un peu semblant. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, on est sur la route du bonheur semblant. Ouais. Du coup, c'est un peu une bêtise, c'est un peu semblant. Et donc voilà, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai fait le titre. Après, c'est vrai que, pour rien te cacher, Yann, en discutant avec l'illustrateur, et en discutant aussi avec la relectrice qui m'ont accompagné sur ce projet de livre, ils m'ont tous les deux dit, alors plutôt quand même l'illustrateur que la relectrice, mais ils m'ont dit que le titre pouvait être déroutant justement et qu'on pouvait ne pas le comprendre. Donc c'est aussi pour ça que j'ai rajouté un sous-titre sur lequel on pourra revenir. Mais bah, j'y tenais parce que c'est mon premier livre et j'ai eu quelques propositions aussi pour passer par des maisons d'édition et finalement bah, j'ai voulu passer en auto-édition parce que c'était mon premier livre sur un sujet qui me touche très très personnellement et j'avais j'avais envie de l'écrire comme je voulais. Et c'était aussi une manière de voilà, de faire un clin d'œil à ma fille et voilà, de vraiment avoir un projet qui me ressemble. Et je pense malgré tout que le titre marche plutôt bien, puisque finalement, il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissaient pas, qui sont tombées sur le titre, qui ont lu la quatrième de couverture, bon, sur laquelle j'ai rédigé un petit peu en mode marketing, mais ça a fait son petit effet. Et du coup, bah, il y a pas mal de gens qui l'achètent juste par curiosité par rapport au titre.
Et on saluera d'ailleurs au passage le travail de l'illustrateur qui a fait une superbe couverture et très parlante et en même temps très poétique, d'une sorte de regard sur soi au travers d'une bouche d'égout à l'envers. C'est assez amusant.
Ouais, c'est ça. Bah, François Lamidon, si vous tapez la route du bonheur sans blanc sur Google, vous verrez la couverture. Et la couverture, c'est François Lamidon qui a fait ça. Je l'ai bien aimé. En plus, il bosse notamment avec Larousse sur certains projets de couverture, etc. Donc, c'était... bah, j'ai bien été entouré là-dessus et c'est lui qui a fait la proposition, donc merci à lui pour cette couverture.
Bien, donc ton bouquin, en fait, il raconte aussi ton propre parcours et parcours qui est finalement qui était un peu sur une route du bonheur semblant, comme tu dis. Tu essayais d'attraper peut-être des châteaux en Espagne.
Ouais, mais carrément. Bah, c'est carrément ça. Alors, j'ai essayé dans le livre forcément de parler le moins possible de moi, mais il y a forcément des moments où j'avais besoin d'exemples pour illustrer. Et comme c'est un sujet qu'on n'évoque pas beaucoup en société, bah, finalement, des exemples, c'était beaucoup plus facile de les trouver chez moi. Mais effectivement, Yann, tu as tout à fait raison. J'étais sur la route du bonheur semblant depuis très très longtemps. On pourrait revenir sur la petite enfance, mais ça peut commencer dès petit dans ta chaise haute quand ta maman te donne à manger et elle te donne parfois des petits pots que t'aimes bien et parfois des petits pots que t'aimes pas. Et puis bah, finalement... quand le petit pot que t'aimes pas, tu le craches, bah, tu vois que maman, elle est pas contente. Donc, bah, finalement, tu vas te forcer de temps en temps pour avoir un sourire et plutôt que de te faire engueuler. Donc, bah, tu commences déjà à faire semblant dès le plus petit âge. Mais moi, j'en ai vraiment pris conscience, en fait, au collège, surtout, où le milieu dans lequel j'étais m'avait pas donné les codes, en fait, pour, pas pour m'en sortir, mais pour essayer d'aller vers bah, le succès, ce que je pensais en tout cas être le succès. Et du coup, au collège, j'ai rapidement pris l'habitude d'identifier les personnes qui me paraissaient les plus susceptibles de réussir. Moi, c'était souvent lié à leur milieu, etc. Et à faire comme eux. Et je me souviens qu'une des premières décisions que j'ai prises bah, tout seul, c'était de faire latin au collège. Mais j'avais pas envie de faire latin, en fait. J'ai juste fait latin parce que, bah, apparemment, c'est ce qu'il fallait faire pour réussir. Et c'est ce qui peut-être allait m'amener vers un meilleur lycée ou c'est peut-être ce qui allait m'amener vers une meilleure école derrière. Donc, j'ai commencé comme ça, à apprendre latin, puis à choisir le meilleur lycée de ma ville, puis à choisir tel parcours à la fac et puis tel métier parce que c'est ce qu'on fait après à un master, etc. Et effectivement, quand j'ai fait mon burn-out, du coup, sur lequel on reviendra peut-être,
oui,
en 2018, je me souviens que les semaines qui ont précédé ce burn-out-là, j'arrêtais pas, enfin plusieurs fois, je disais à ma conjointe, en fait, j'ai une problématique, il y a des gens qui m'aiment pas pour quelqu'un que je ne suis pas, parce que je fais semblant d'être cette personne, je fais semblant d'avoir tel statut, je fais semblant d'avoir telle valeur ou tel comportement ou tel caractère. Donc, il y a des gens qui ne m'aiment pas pour quelqu'un que je ne suis pas. Et à l'inverse, les gens qui m'aiment, bah, du coup, ils m'aiment aussi pour quelqu'un que je ne suis pas. Et du coup, je me retrouvais un petit peu dans cette réflexion un peu bug, hein, si on revient, on fait l'analogie avec l'informatique, avec une équation insoluble. Et donc, bah, ça a été effectivement le déclencheur. En fait, je me suis rendu compte que j'avais atteint les objectifs qui étaient les miens quand j'étais petit. Donc, l'objectif, il n'était pas fou. Hein. C'était juste de sortir de la précarité, d'avoir un bon métier, d'avoir une famille et la maison qui va avec pour tout sécuriser. Et en fait, quand j'ai atteint cette destination-là, bah, déjà, je me suis dit, j'avais 33 ans à l'époque, je me suis dit, bah, il me reste facile au moins 40 ans à bosser. et bah, du coup, qu'est-ce que je vais faire de ces années-là, puisque finalement, j'ai atteint mon objectif qui me paraissait être l'objectif ultime. Et je me suis surtout rendu compte, je pense que ça va parler à beaucoup de tes auditeurs, qu'en fait, quand j'ai atteint ce qui me paraissait être le succès, bah, j'étais quand même encore triste, j'avais encore des problématiques et tout ne s'est pas évaporé. Je ne suis pas devenu heureux de manière définitive du jour au lendemain en ayant atteint ces objectifs-là, au contraire. Et du coup, ça a ressorti effectivement des réflexions que j'aurais dû mener bien avant. Et je me suis rendu compte que, grosso modo, et c'est le sous-titre du livre, du coup, c'est qu'on est nombreux à souffrir de syndromes, de blocages psychologiques, de fausses croyances qui nous empêchent de mener les actions qu'on a envie de mener, qui nous empêchent d'aller vers les objectifs qui sont les nôtres, pour plutôt suivre une route qui paraît plus satisfaisante pour tout le monde. Donc, c'est des syndromes de l'imposteur, le syndrome du bon élève, le syndrome du super-héros encore, dont on parlait en off tout à l'heure, la peur de l'échec, la peur du regard des autres, tout ça. Moi, quand j'étais vraiment dans le fond du trou avec le burn-out, je me suis dit, est-ce que ces peurs-là suffiront à légitimer mon inaction quand je serai sur mon lit de mort, en fait? Et c'est là où je me suis dit, non, ça ne va pas être le cas. Ouais. Donc, j'ai entrepris de démonter un peu toutes ces fausses croyances-là et essayer de me reconnecter avec mes véritables aspirations, notamment écrire un livre et plein d'autres. Ouais. Et forcément, si je suis là aujourd'hui, c'est que ça a plutôt marché. Mais voilà, c'est l'idée du livre, en tout cas.
Bon, ouais, très bien. Et donc justement, on va du passé faire table rase, comme on dit à Moscou, et parler du futur, parce que autour de Visionary Marketing, on a beaucoup d'entrepreneurs, de gens qui ont envie d'entreprendre. Hein. C'est d'ailleurs quelque chose qui est assez courant en France. Les gens sont tellement malheureux au travail qu'ils ont envie tous d'entreprendre et ils croient qu'ils vont trouver le bonheur, semblant. Et alors moi ce que j'aimerais bien c'est justement profiter de ton expérience pour que tu leur donnes, allez, on va pas en prendre 312 000, on va prendre 3 conseils à suivre et 3 erreurs à ne pas commettre.
Ouais, ok, alors je peux commencer par les conseils ou les erreurs, je vais essayer de prendre ce qui me vient à l'esprit et on ajustera au fil de la discussion. Moi le premier conseil que je donnerais, et finalement il y a l'erreur qui va avec, c'est d'arrêter de se comparer et surtout d'arrêter de se comparer avec ce qui n'est pas comparable. Et ça c'est moi un truc que j'ai fait et qui m'a précipité vers le burn-out forcément, c'est quand j'ai créé mon entreprise et que j'ai commencé à me développer et que j'ai commencé à voir que ça marchait, j'ai regardé constamment, je regardais constamment au-dessus de moi, je regardais pour tout te dire et en reparlant de ça avec toi, je trouve ça complètement irrationnel, mais c'est pourtant un comportement qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs. Je regardais des agences qui étaient 30, 40, je regardais des boîtes qui faisaient 10 fois ma taille, et je me disais, mais en fait, moi, je veux leur passer devant, que ce soit, et surtout d'ailleurs, en termes de présence en ligne, sur le trafic du site internet, sur les abonnés, sur les réseaux sociaux, etc. Et je bossais de 5h du matin jusqu'à 20h, des fois avec juste l'objectif de passer devant telle ou telle agence, juste pour être devant. Mais finalement, ça ne permet pas d'atteindre des objectifs qui soient cohérents en termes de chiffre d'affaires et tout ça. Ça permet juste d'avoir ce besoin de reconnaissance qu'on a tous. Mais ce n'est pas une finalité, quoi. Donc ça, c'est le premier conseil que je donnerais. C'est effectivement se comparer, ça permet de progresser et c'est important. Maintenant, il faut éviter de se comparer avec beaucoup plus gros que soi et surtout arrêter de croire que la réalité qu'on nous propose sur les réseaux sociaux, parce que forcément c'est une dérive, mais quand on voit les publications en mode personal branding d'entrepreneurs sur LinkedIn, qu'on voit les publications Instagram de telle et telle startup et qu'on ne voit entre guillemets, et c'est ce que je regrette un peu aussi dans l'écosystème français, qu'on ne voit que des choses qui se passent bien en fait, nous inconsciemment quand on est dans notre quotidien et qu'on enchaîne les merdes et qu'on enchaîne les pépins et qu'on enchaîne les échecs et qu'on voit qu'à côté il y a tel entrepreneur qui lui réussit tout de A à Z parce qu'il ne communique que sur ça, donc nous on ne voit que ça, on se dit mais en fait je suis nul, je suis pas bon, je suis un imposteur, donc ça nourrit un peu ce syndrome d'imposteur. Et donc voilà, le premier conseil qu'effectivement je donnerais,
c'est ça. Et ça, c'est pas seulement vrai pour le nombre de followers, ça peut être le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, etc. Il y a une telle pression sur le marché pour t'expliquer que si t'as pas 50 ou 100 employés, t'as raté ta vie. La réponse à cela, c'est non, c'est faux. On peut être très bien un petit artisan et être très heureux, et ce qui compte dans la vie, c'est d'être très heureux.
Ah, complètement. Mais c'est l'objectif, il est là, il est pas derrière des chiffres. Moi, je l'ai compris, forcément violemment avec le burn-out, mais je me souviens de cette époque pré-burn-out justement où j'avais un tableau Excel de KPI. Je pourrais te montrer ça, mais c'était juste débile en fait parce que ça n'avait aucun sens de suivre autant de KPI. Et c'est surtout que je les suivais quotidiennement. Et si ça ne montait pas, il fallait que je fasse quelque chose pour que ça monte à la fin de la journée, parce que je ne voulais pas avoir une journée en négatif, que ce soit d'un point de vue audience, que ce soit d'un point de vue communauté, d'un point de vue vu sur les réseaux sociaux, etc. Et je me souviens, et ça a vraiment été aussi salvateur pour moi de le comprendre, mais là pour le coup d'un point de vue chiffre d'affaires, c'est que, et ça pourrait être d'ailleurs le deuxième conseil d'un point de vue entrepreneur, c'est de ne pas essayer de faire ce que les autres font, mais d'être le plus authentique possible, notamment dans le marketing, la communication. Avant le burn-out, je communiquais et toutes les actions que je faisais, que ce soit de la création de contenu sur mon site web, que ce soit des podcasts, des vidéos, que ce soit des publications sur les réseaux sociaux, je ne faisais que des trucs qui allaient améliorer mes chiffres. Mais au bout d'un moment, à force d'être guidé que par Google Analytics dans ce que je faisais, bah mes communications, elles ne me ressemblaient pas à moi. C'était des communications robotisées que tu aurais pu retrouver chez n'importe qui. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais atteint un palier que je ne pouvais plus dépasser d'un point de vue performance. Et ça, ça me frustrait forcément parce que moi, je voulais progresser. Et j'ai juste cassé ce plafond-là quand j'ai accepté de ne plus faire attention aux chiffres et de surtout communiquer comme j'étais. Et c'est tout bête, mais de faire des webinars avec ma casquette parce que j'ai la casquette au quotidien, ça a changé les choses. De parler aussi de mes doutes, de tout ce qui m'arrivait à l'époque, ça m'a permis aussi de faire un bond d'un point de vue communication, d'un point de vue performance. Et en fait, surtout, j'ai complètement changé mon positionnement. Aujourd'hui, j'ai un positionnement, je pense, qui est compris de mes clients et de mes prospects et qui est aussi un positionnement fort dans le marketing, qui est de dire le marketing c'est important, les performances sont importantes, mais elles ne sont rien s'il n'y a pas de l'humain derrière. Et donc j'ai intégré tout ce qui est conduite du changement dans mon métier, ça me permet d'être plus cohérent avec mes valeurs, avec mon caractère, etc. Et ça me permet d'avoir un petit élément différenciant par rapport aux autres boîtes que je regardais un petit peu avec envie auparavant, quoi.
Ah voilà, un bon artisan qui est lui-même et c'est déjà pas mal. Et puis pour les clients qui sont complètement en transe parce qu'ils n'ont pas fait 60 000 vues ce mois-ci, on va leur dire que ça n'a strictement aucune importance. Il suffit que ce soit que leurs articles soient vus une fois par la bonne personne. Hein, voilà, donc ça sert à rien de faire des. Je connais plein de web entrepreneurs qui font des centaines de milliers de vues. Deux gens complètement inintéressants qui leur passeront jamais de commandes, donc aucun intérêt à arrêter de chasser des chiffres débiles comme ça. Alors troisième peut-être, troisième conseil.
Ouais, le troisième c'est celui que je préfère puisque c'est finalement celui aussi moi qui a fait que j'ai quitté la route du bonheur semblant pour aller vers la route du bonheur, ce que j'appelle la route du bonheur véritable dans le livre. C'est le sens en fait. On parle beaucoup de tout ça. Enfin, c'est vraiment. On peut penser que c'est un buzzword, on parle beaucoup de sens au travail, on parle beaucoup de sens de la vie, et c'est des choses qui vont revenir de plus en plus fort, notamment dans le contexte dans lequel on est, le fait qu'on soit confiné, le fait qu'il y ait des couvre-feux, qu'on passe notre temps libre enfermé entre quatre murs, entre guillemets, même si en ce moment on est plutôt confiné dehors, hein, si on écoute un peu les préconisations du gouvernement.
On est libre dedans et confiné dehors, mais enfin un truc dans le genre.
Ouais, c'est ça. On n'a pas bien compris, mais en gros, ça ressemble.
Personne n'a compris, je crois. Lui-même qui a sorti le truc n'a pas compris non plus, d'ailleurs.
Mais ouais, c'est clair. Toujours est-il que le contexte dans lequel on est, c'est clairement horrible. On va pas tergiverser là-dessus. Je pense malgré tout que c'est quelque chose qui sera positif à terme. Pourquoi ? Parce que le confinement, les couvre-feux, le fait aussi de voir que finalement nos libertés et notre vie, malgré tout, ne tient qu'à un fil, ne tient qu'à un virus qui peut arriver du jour au lendemain, a fait qu'en fait, je pense beaucoup d'entre nous ont pris conscience. Justement qu'ils étaient sur la route du bonheur semblant et qu'il fallait réagir par rapport à ça et qu'il fallait courir après autre chose justement que des chiffres, que du chiffre d'affaires, qu'une rémunération ou qu'un statut social. Et le sens là-dedans va être hyper important. Et je pense qu'on ne fait jamais mieux son travail que si on a le pourquoi qui va avec. C'est-à-dire que moi, je l'avais toujours en tête, mais je l'ai vraiment remis au centre de mes priorités après le burn-out. C'est que je me suis posé la question de pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi c'est important et pourquoi je veux vibrer au travers de ça. Et en fait, moi, finalement, je fais du marketing, j'accompagne les boîtes dans, entre guillemets, ce qu'on appelle la digitalisation marketing et commerciale. Donc, en gros, je fais en sorte qu'ils trouvent de nouveaux leviers pour trouver plus de prospects plus facilement, en tout cas de manière plus confortable, et qu'ils puissent générer de manière plus confortable aussi du chiffre d'affaires. Et en fait, derrière ça, il y a ma volonté à moi, mon sens à moi, qui est de faire en sorte que les gens améliorent leur vie professionnelle. Et le jour où j'ai remis ça vraiment au centre de tout et que je me suis dit arrête de courir après les chiffres, arrête de courir après le chiffre d'affaires, arrête de courir après le besoin de reconnaissance, oui, et mets juste en place des actions qui vont faire que tes clients, les collaborateurs de tes clients vont avoir une vie professionnelle qui est plus confortable, plus agréable, plus épanouissante, bah mieux tu seras. Et effectivement, depuis, je travaille un peu moins qu'avant, ça c'est clair, parce que je travaillais de 5h du mat à 20h, comme je le disais précédemment, donc je travaille quand même nettement moins qu'avant. Mais j'ai aussi l'impression de moins travailler parce que j'ai ce sens en fait qui me permet de me ressourcer, ce que j'avais pas avant en fait. Avant je courais, j'étais en mode pilote automatique, je faisais des actions en mode robotisé, etc. Donc je perdais beaucoup d'énergie. Aujourd'hui je bosse, ça me demande de l'énergie, mais le fait de voir derrière de l'épanouissement chez les collaborateurs de mes clients ou de voir de la valeur de vraiment percevoir cette la valeur perçue, enfin, je sais pas si ça se dit ça, mais tu vois l'idée, chez mes clients, etc. Du coup ça me recharge les batteries. Et quand on parle de burn-out, on dit souvent qu'il faut se reposer. Oui. Le repos ne fait pas tout. Il faut aussi d'autres manières de recharger ses batteries. Et la valeur perçue, la satisfaction de ses clients et l'impression, en tout cas, d'avoir un impact dans ce qu'on fait, bah forcément, ça permet aussi de recharger les batteries.
Quelque part, dans ce que tu nous dis, là, il y a une sorte de lâcher prise, en fait. C'est d'essayer de se lâcher la pression soi-même. Alors, sur les trois choses à ne pas faire, peut-être la première chose à ne pas faire, c'est travailler comme un abruti de 5h du matin à 20h. Et c'est moi qui dis ça, qui travaille de 6h du matin à 20h.
Mais bon. Ouais, mais Yann, c'est clairement, tu as raison. Et ça touche beaucoup d'entrepreneurs, notamment quand on crée sa société et qu'on a besoin justement d'amorcer la pompe et de faire en sorte que les premiers clients nous permettent de générer le premier chiffre d'affaires et d'avoir un peu de pérennité dans tout ce qu'on fait. Donc on bosse beaucoup, c'est clair, on va pas se mentir. C'est obligatoire. Maintenant, je pense qu'il y a une nuance entre travailler dur et travailler suffisamment. C'est-à-dire que bien souvent, et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prônent ça, qui disent il faut travailler dur pour réussir, il faut se donner du mal. Enfin, tu vois, c'est un peu des expressions anodines comme ça, mais derrière ça, il y a le sentiment de douleur, il y a le sentiment de se sentir méritant, il faut avoir souffert. Or, je me rends compte depuis le burn-out, c'est pas la seule option. C'est-à-dire que moi, avant, je travaillais dur pour réussir et j'avais besoin de sentir que j'étais sur les rotules, limite que j'avais mal physiquement pour me sentir méritant. Et aujourd'hui, je me rends compte que même dans le confort, on peut réussir et on peut atteindre de beaux objectifs. Donc effectivement, travailler dur, non. Travailler beaucoup, c'est indispensable. Travailler dur, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure des choses. Et non, effectivement, travailler de 5h à 20h ou même de 8h à 20h sans faire de pause, ça n'a pas de sens. Il faut sortir, il faut se ressourcer, faut voir ses amis, il faut faire du sport. Je me souviens, c'est mon associé qui me disait ça à l'époque en parlant du repos, mais c'est valable aussi pour les loisirs, etc. Il me disait le repos fait partie de la performance. Absolument. Tu fais du sport de haut niveau, le repos fait partie de la performance. Tous les grands sportifs dorment et font des siestes dans la journée, etc. L'entrepreneur, c'est pareil. Un entrepreneur, c'est comme un sportif de haut niveau. S'il ne fait pas de repos, s'il ne recharge pas ses batteries en se vidant la tête via des loisirs, des sports, en fait, tu te grilles et tu fais effectivement ce burn-out-là.
Je conseille personnellement d'aller au travail en vélo. Ça permet de se vider la tête. Et c'est très
carrément. Mais ça te permet d'avoir aussi ce sas de décompression en fait, entre le moment où tu pars du boulot jusqu'à chez toi, tu te vides la tête, tu te remets en mode tranquille et tu rentres chez toi et t'es calme. Moi, pour tout te dire, parce que c'est quelque chose qui est pas encore naturel, enfin ça l'est quand même de plus en plus et maintenant ça l'est quand même quasiment à 100%, mais j'ai quand même deux petites alertes sur mon téléphone. Une, j'ai changé les horaires parce que justement c'était trop rentré dans la routine, mais je crois à 11h27 et à 15h46, j'ai deux notifications qui me rappelle que je dois faire des pauses et que ça serait peut-être bien de me lever ou de faire quelque chose pour que je sois plus confortable au moment où je reçois ces notifications-là. Donc, ça peut être une petite astuce pour les personnes qui nous écoutent. Si vous ne savez pas faire des pauses vous-même, et je comprendrai puisque je suis passé par là, mettez-vous des petites notifications et n'hésitez pas à les écouter parce qu'on peut être tenté de les laisser de côté. Mais la petite notification peut faire en sorte que vous allez vous lever, prendre un café, peut-être prendre un petit rayon de soleil parce que les beaux jours arrivent et puis c'est déjà pas mal pour recharger ses batteries.
J'en ai une, moi, qui me rappelle toutes les heures qu'il faut que je me lève. Et
exactement.
On pourrait prendre ça comme, comment dire, une dictature, mais en fait, c'est très pratique, parce que surtout quand on fait beaucoup de travail à distance derrière un écran, ça vous oblige à vous lever et aller chercher un café ou agiter vos pattes, faire autre chose. et allez vous promener. Alors, deuxième chose à ne pas faire.
Alors, deuxième chose à ne pas faire, c'est travailler tout seul. Travailler tout seul, que ce soit en tant qu'indépendant ou quand on a des collaborateurs. Le sujet de la délégation, de déléguer les choses, c'est quelque chose qui peut être difficile pour certains profils parce qu'on a besoin d'avoir un contrôle sur tout. On parlait tout à l'heure de lâcher prise. Le lâcher prise est un enjeu pour beaucoup d'entre nous. On n'est pas tous capables de le faire, en tout cas naturellement. Enfin, ça s'apprend, le lâcher prise, ça peut nécessiter un apprentissage pour certaines personnes. Et moi, du coup, je parle de ça dans le livre, je parle notamment du syndrome du super-héros. Le super-héros, c'est quoi? C'est une personne qui veut tout faire pour être indispensable, mais qui veut surtout tout faire pour que les personnes qui l'entourent soient satisfaits, ne manquent de rien, parce qu'il a peur derrière ça d'être rejeté finalement par les autres. S'il n'arrive pas à satisfaire les besoins, etc., il peut se sentir rejeté ou abandonné. Donc le syndrome du super-héros, c'est un peu ça. Si le sujet vous intéresse, beaucoup plus détaillé dans le livre forcément. Et moi, j'étais vachement dans ça aussi au départ, c'est que comme je voulais justement être méritant, que je voulais montrer aux yeux du monde que j'étais performant et que j'étais un des meilleurs dans ce que je faisais, bah, je faisais tout seul. Donc, je ne déléguais rien, la rédaction de contenu, le marketing pour l'agence, la production. Je faisais la production de mes clients. Il fallait que j'aie le nez dans tous les dossiers, que ce soit marketing, commercial, alors que pourtant, je ne suis pas non plus le plus légitime sur la partie commerciale, moi étant marketeur de base, mais j'avais besoin d'avoir la main partout, plus tous les sujets liés à l'entrepreneuriat, etc. Donc, je faisais absolument tout.
Oui.
Exactement, c'est clair. Et ça m'arrivait de déléguer des trucs, mais je repassais tellement plus de temps à tout refaire parce que je voulais avoir ma patte et je voulais avoir le contrôle sur tout, que en fait c'était plus dur pour moi d'un point de vue effort de déléguer que de ne pas déléguer, parce que je perdais plus de temps en déléguant et à repasser derrière. Et ça, c'est pas bon pour moi, c'était pas bon pour mes collaborateurs non plus. Et donc vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est effectivement essayer de lâcher prise à ce niveau-là, de déléguer et d'accepter que même si les choses ne sont pas faites de la manière dont nous on les aurait fait, de se focaliser un peu sur la valeur perçue, que ce soit par la communauté si c'est du marketing, que ce soit par les prospects ou pour les clients si c'est du business. Et en fait, on se rend compte, moi je l'ai fait progressivement, hein, ça m'a pris beaucoup de temps pour déléguer des choses, notamment à mon associé Sébastien, mais quand j'ai constaté qu'il faisait les choses différemment de moi, mais que les clients étaient tout aussi contents, parfois plus, bon, parfois moins aussi, ça peut arriver, mais que la satisfaction était là, en fait, je me disais, j'ai peut-être pas besoin de me casser le cul et de bosser 3-4 heures de plus pour faire un truc que lui peut faire. Et qu'en plus, il le fait bien, puisque les clients sont contents et que lui, il est content et tout le monde est content. Et donc, voilà, déléguer, c'est hyper essentiel, quoi. Accepter de lâcher prise et accepter que les collaborateurs, les partenaires ou même les sous-traitants, si on bosse avec des freelances, ne font peut-être pas la même chose que nous, que peut-être même le niveau de qualité est inférieur à ce que nous, on aurait rendu. Se focaliser quand même sur la valeur perçue, parce que généralement ça suffit et ça peut faire gagner un temps fou et ça peut nous permettre justement d'être confortable et de rentrer au boulot, du boulot à vélo, et puis même de faire un petit détour par le parc en partant plutôt le soir plutôt que de corriger une copie de quelqu'un.
Absolument, un petit détour le long de la Seine par exemple, où il y a personne en ce moment, c'est bien connu.
Ouais, c'est clair. C'est clair.
Bien, la perfection n'est pas de ce monde de toute façon. Et puis un petit dernier conseil pour la route.
Eh bien tiens, tu me tends la perche pour le troisième truc à ne pas faire. Je pense que d'un point de vue entrepreneur, on est justement trop à la recherche de la perfection et que cette perfection-là est frustrante. Pourquoi ? Parce qu'on ne l'atteint jamais. Et moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs et même de collaborateurs dans les boîtes avec lesquelles je bosse qui font des choses, qui ont envie de faire des choses, qui passent à l'action, qui commencent le passage à l'action, mais qui ne valident pas, qui ne transforment pas l'essai. Pourquoi ? Parce que le truc n'est pas parfait. Donc, on va attendre que ce soit parfait pour le lancer. Alors, ça peut être valable pour un produit, ça peut être valable pour un contenu sur Internet, ça peut être valable même sur des posts LinkedIn. Un post LinkedIn, c'est rien, vous risquez rien. Si vous publiez un post LinkedIn, il ne marche pas, c'est pas grave. En fait, vous allez en faire un demain et ça marchera, et où ça ne marchera pas, et il y a un jour où ça marchera. Et moi, je vois des entrepreneurs, je vois des dirigeants, je vois des marketeurs qui ont des dizaines de posts LinkedIn en brouillon sous Word ou quoi, qui ne le publient jamais parce que ce n'est pas parfait et c'est valable forcément. On a tous, je pense, Yann, des exemples de clients avec lesquels on a bossé qui avaient un nouveau produit, qui ont attendu, entre guillemets, le produit parfait dans leur tête pour le lancer et ça a été un flop parce que la perfection de l'entrepreneur n'était pas la perfection du marché et dans tous les cas, ça n'a pas fonctionné. Là, l'idée, c'est de dire, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais à l'instant, c'est que fait est mieux que parfait. C'est un conseil qu'on m'a donné juste avant le burn-out, que j'ai compris après le burn-out du coup. Mais faire les choses, même si elles ne sont pas parfaites, bah, ça permet d'avancer, ça permet de progresser. Les choses qu'on fait aujourd'hui, on les fait avec notre niveau d'expérience, avec les informations qu'on a aujourd'hui, et c'est forcément inférieur à ce qu'on saura demain. Mais il faut avancer, il faut faire les choses, fait est mieux que parfait, et ça peut éviter la frustration, ça peut permettre à, aux entrepreneurs d'avancer et d'aller plus rapidement vers leurs objectifs. Donc vraiment, arrêter de se focaliser sur la perfection, ne pas hésiter à lancer une version bêta, une version même moins que bêta, et voir un petit peu comment ça répond, et focalisez-vous là pareil sur la valeur perçue, parce que moi quand j'ai commencé à faire ça, que je me suis rendu compte bah tiens que tel article de blog n'était pas parfait, mais c'est pas grave, je l'ai publié, bah bien souvent c'est un article qui va mieux fonctionner que les autres parce qu'il est plus authentique, il est plus spontané. Pareil sur les publications sur les réseaux sociaux, pareil sur des prestations clients, et en fait la perfection, la barre qu'on se fixe, notamment si on souffre du syndrome du bon élève, comme je le décris dans le livre, qui est le syndrome qui nous pousse à faire ce que les autres attendent de nous et de le faire à la perfection pour avoir cette reconnaissance qui nous est tous vitale. Bah, si on souffre du syndrome de bon élève, on a besoin d'avoir la perfection pour avoir cette reconnaissance. Et tant qu'on n'a pas cette perfection-là, on a peur bah, justement de ne pas l'avoir, la reconnaissance. Bah, en fait, on se rend compte quand on fait les choses même pas parfaitement, ou en tout cas ce qui n'est pas parfait selon nous, suffit bien souvent à satisfaire 90% des gens parce que bah, c'est déjà d'une qualité exceptionnelle en fait.
Eh bien voilà une excellente conclusion pour que le travail ne soit pas un trépalium, hein, puisque en ouais. français le mot travail vient d'un supplice latin, trépalium, trois pieux, ouais. C'est pas terrible, et voilà, je pense qu'il faut effectivement prendre un peu de recul par rapport à ça, avoir un peu d'humour, et puis surtout faire beaucoup de vélo, et travailler moins, mais mieux.
Exactement, bah, ça c'est une très belle conclusion, Yann.
Merci Ludovic.
Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion.
Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.